VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour cette édition de 19h30 en temps universel, mais aussi à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir à tous, voici les titres. Le Mali marque deux jours de deuil, 48 migrants ont péri en Méditerranée. En Tunisie, aucune décrispation après trois nuits de contestation contre les mesures d'austérité. En Angola, un autre enfant Dos Santos tombe, le fils de l'ex-président limogé du fonds d'investissement souterrain. L'actualité économique, c'est aussi l'Afrique subsaharienne qui s'attend à une meilleure croissance cette année. Et bien sûr les sports, mais tout d'abord, le journal. 48, c'est le nombre de migrants qui ont péri en Méditerranée le week-end dernier. Selon le ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, le gouvernement malien souhaite engager des poursuites judiciaires contre les passeurs qui sont à la base de ce drame. Kassim Traoré.
Ils sont jeunes filles et garçons à la recherche d'un lendemain meilleur, partis du Niger voulant passer par la Libye pour le continent européen. Leur embarcation a pris de l'eau. Sur les 50 morts, 48 sont des Maliens. Après les rescapés maliens au nombre de 69 personnes, dont deux femmes et quatre enfants ont été identifiés. Moussa Aliou Kone, chef de cabinet du ministère des Maliens de l'Extérieur.
Nous sommes en contact avec notre ambassade à Tripoli. Des instructions lui ont été données pour que très rapidement ces 69 rescapés puissent regagner Bamako. Sur les dires de l'ambassadeur, les corps n'ont pas été retrouvés. Tous les corps n'ont pas été retrouvés, c'est que sûr. Il m'a bien dit que pour le moment, vous savez, il faut du temps pour que la mer rejette les corps.
Au cours du conseil des ministres de mercredi passé, le président Ibrahim Boubacar Keïta a ordonné la mise en berne des drapeaux sur l'étendue du territoire national le jeudi 11 au vendredi 12 janvier 2018. Il a invité les communautés religieuses à organiser des prières collectives pour le repos de l'âme des disparus. Ibeka a instruit les ministres concernés d'entreprendre des actions vigoureuses pour rechercher et punir les passeurs et les complices de ces drames. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Par ailleurs, le gouvernement malien va lancer une vaste opération de sécurisation dans le centre du pays, dont une partie est sous contrôle des groupes armés djihadistes. Selon un responsable du ministère malien de la Défense, plus d'un millier de militaires seront à terme déployés dans le centre. Depuis 2015, des attaques djihadistes se sont étendues dans le centre et dans le sud du Mali, et le phénomène gagne les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger. Au Sénégal, le bilan de la tuerie de samedi dernier en Casamance a été revu à la hausse. 14 morts après la découverte du corps d'un disparu. Le bilan officiel de la tuerie, dont les auteurs sont toujours activement recherchés, était jusqu'ici de 13 morts et d'une demi-douzaine de blessés. Au Nigeria, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Makourdi, dans le centre du pays, en hommage aux dizaines de victimes et de récents affrontements entre cultivateurs et éleveurs. Et quelques 80 personnes ont été tuées depuis le début de l'année lors de violences entre des éleveurs en majorité musulmans et des agriculteurs chrétiens. Le gouverneur de l'état de Benue, Samuel Ortom, a précisé que 73 personnes seraient enterrées aujourd'hui. Au Cameroun, un avocat représentant plusieurs séparatistes anglophones a assuré aujourd'hui qu'ils avaient été arrêtés par les services de renseignement nigérians. Sissiku Ayuktabe, président du mouvement séparatiste anglophone, ainsi que 9 de ses partisans, ont été arrêtés pendant une réunion à Abuja. Le 1er octobre 2017, pour rappel, son mouvement avait publié une déclaration symbolique d'indépendance de l'Ambazonie. Nouvelle constitution au Gabon, adoptée hier par le Parlement, avec pour nouveauté un scrutin présidentiel à deux tours, la non-limite du nombre de mandats et le président de la République qui devient le seul à déterminer la politique de la nation. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Au Congo-Brazzaville, un officier de l'armée, le général Norbert Dabira, est soupçonné d'avoir tenté de renverser le régime. Il a été interpellé par la police à Brazzaville et se trouve encore à la DGST, la Direction Générale de Surveillance du Territoire, pour interrogatoire. L'interpellation du général Dabira intervient alors que des opposants accusés de troubles à l'ordre public et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État sont en détention depuis plusieurs mois sans jugement. Parmi eux figurent le général Jean-Marie Michel Mokoko, l'ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, et l'ancien ministre André Okombi Salissa, tous deux candidats malheureux à la présidentielle contestée de 2016. De l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo, les évêques catholiques ont appelé aujourd'hui les Congolais à barrer la route à toute tentative de confiscation de pouvoir au moment où les relations sont tendues entre l'Église et le pouvoir de Kinshasa. Kinshasa a condamné fermement les événements survenus le 31 décembre 2017 et a mis en garde les organisateurs contre toute récidive. Le président angolais Joao Lourenço a démis de ses fonctions le fils de l'ancien chef de l'État, José Eduardo dos Santos, qui était à la tête du fonds d'investissement souverain du pays. Nathalie Barge.
José Filomeno dos Santos a été remplacé par l'ancien ministre des Finances, Carlos Alberto López. Le fonds d'investissement souverain aurait versé des dizaines de millions de dollars à un de ses proches, l'homme d'affaires Jean-Claude Bastos de Moret, pour gérer cette entité. Lancé en 2011, ce fonds était doté de 5 milliards de dollars. Depuis sa prise de fonction en septembre, João Lourenço a limogé plusieurs patrons des secteurs les plus sensibles, dont 4 enfants de l'ex-président angolais. La fille dos Santos, Isabelle, a été évincée en novembre de la présidence de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale, qui a ouvert une enquête sur des mouvements de fonds suspects. La société publique de commercialisation des diamants s'est retirée du capital du bijoutier suisse de Grisogono, dont est actionnaire le mari d'Isabelle dos Santos. Lors de sa campagne, João Lourenço avait promis d'éradiquer la corruption pour relancer l'économie en déprime suite à la chute des cours du pétrole.
En Tunisie, 3e nuit de grogne consécutive, des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et jeunes dans plusieurs villes et plus de 600 personnes ont été arrêtées depuis lundi, selon le ministère tunisien de l'Intérieur. Le point avec Salwa Jafari.
Dans la petite ville de Tberba, les ruelles ressemblent à un champ de bataille. Pneus en flammes, débris et cailloux recouvrent la chaussée. Les manifestants et les forces de police se sont affrontés sans relâche toute la nuit.
Ce n'est pas la faute à ces gens qui ont longtemps étudié pour se retrouver sans travail, sans rien. En ce qui nous concerne, nous devons endurer ces affrontements. Même notre bus a été attaqué avec du gaz lacrymogène. Nous ferions mieux de trouver une solution pour nos jeunes.
Mercredi, 328 personnes ont été arrêtées pour vol, pillage, incendie volontaire et blocage de route ces derniers jours, a annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui a toutefois ajouté que l'intensité des violences a diminué par rapport aux jours précédents. Plusieurs villes ont été le théâtre de cette vague de contestation, dont Siliana, Kasserine, Tburba et même certains quartiers de Tunis. Les troubles alimentés par une grogne sociale ont éclaté lundi alors que s'approche le 7e anniversaire de la révolution tunisienne qui réclamait travail et dignité et a chassé du pouvoir le président Zine Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011.
À Madagascar, l'élection présidentielle se tiendra entre le 25 novembre et le 25 décembre, a annoncé hier la commission électorale, mais la date précise n'est pas encore connue. Le président de la CENI, Héry Rakoto Manan, a annoncé hier que l'élection présidentielle devrait se dérouler cette année, mais il revient au gouvernement de déterminer la date précise.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, au moins 17 personnes ont trouvé la mort et des centaines de maisons ont été détruites suite à des coulées de boue provoquées par de fortes pluies dans le sud de la Californie. Abdourahmane Dia.
Ce jeudi encore, des centaines de secouristes se sont levés très tôt pour tenter de retrouver d'éventuels survivants et sortir des corps ensevelis sous la boue dans le riche comté de Santa Barbara, au nord de Los Angeles. Des chiens renifleurs sont mis à contribution, mais la tâche s'avère difficile car beaucoup de zones sont difficiles d'accès et les secours ne se font que par voie aérienne. Quelques 30 000 personnes ont été conseillées d'évacuer. Parmi les victimes, la star de la télé Oprah Winfrey. Une partie de sa maison a été endommagée. Kelly Wimmer, une autre résidente, attendait avec anxiété d'avoir des nouvelles de ses parents âgés dont la maison a été détruite. Il y a d'autres, comme ce couple, Jim et Alice, qui ont choisi d'ignorer l'appel des autorités à quitter la zone. Le bilan risque d'être révisé à la hausse puisqu'il y a beaucoup de portées disparues. Le mois dernier, la même région a été frappée par de violents incendies qui avaient détruit des centaines de maisons et fait des dizaines de morts. Plus de 8000 pompiers avaient été mobilisés pour venir à bout des incendies.
Le gouvernement haïtien et ses partenaires internationaux ont lancé aujourd'hui un appel à financement à hauteur de 252 millions de dollars afin de répondre aux urgences humanitaires pour l'année 2018. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La RDC devrait profiter de l'envolée des cours du cobalt et du cuivre. Le prix du cobalt a augmenté de 127% en un an pour atteindre 75 000 dollars la tonne. Le cuivre est à plus de 7 000 dollars la tonne pour la première fois depuis 3 ans et demi. Le boom mondial des batteries de smartphones et de voitures électriques a favorisé cette flambée. Kinshasa révise son code minier pour tirer profit de ce boom. L'Afrique subsaharienne s'attend à une meilleure croissance en 2018 qui devrait dépasser 3%. Une multiplication des investissements dans les infrastructures va impulser cette dynamique. Le Ghana, l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire en seront les plus gros contributeurs. Le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud observeront une timide amélioration. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient connaîtront une nette progression de leurs économies. Le Burkina Faso et le Niger lancent respectivement en avril et octobre leur caisse de dépôt et de consignation. Elle sera dotée de 500 milliards de francs CFA au Burkina. Ce type d'institution existe déjà au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, en Mauritanie, au Gabon, au Bénin, en Italie, au Canada et au Brésil. Selon les pays, la caisse de dépôt et consignation sert de fonds souverains ou agit comme une banque de développement ou banque commerciale. Le Cameroun et le Congo l'ont créé récemment. La Côte d'Ivoire suivra bientôt.
Et la page sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Tout d'abord, le joueur africain le plus cher de l'histoire du football est congolais.
Et il s'appelle Cédric Bakambu. Il évoluera avec le Beijing Guang où il s'est engagé pour 4 saisons pour acquérir l'attaquant de Villarreal. On savait déjà que le club chinois avait levé sa clause libératoire de 40 millions d'euros. Mais en raison des nouvelles taxes imposées par la Chine, le Beijing Guang a déboursé au total 74 millions d'euros pour faire de l'international congolais de 26 ans le joueur africain le plus cher de l'histoire. On rappelle que Cédric Bakambu va bénéficier d'un salaire annuel, tenez-vous bien, de 18 millions d'euros bruts.
Et puis une femme à la tête du football malien.
Le comité de normalisation qui a été installé hier à la tête de la Fédération malienne de football. Hier, la commission conjointe FIFA-CAF a nommé Dao Fatoumata Guindo, présidente du CONOR. L'ancienne ministre des Relations avec les institutions sous l'ère ATT devra travailler pour l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FEMAFOOT au plus tard le 30 avril prochain. On écoute la présidente du comité de normalisation.
La crise n'est pas sur le terrain, la crise est ailleurs. Je n'ai pas besoin d'être connu sur le terrain pour pouvoir gérer cette crise. Je fais confiance à ceux qui nous ont porté cette confiance-là et je fais confiance aussi à l'équipe que nous avons. Et ensemble, je pense que nous sommes tous fatigués. Tous les Maliens sont fatigués, tous les supporters sont fatigués et j'espère que nous allons avoir le soutien de tout le monde pour qu'ensemble, nous puissions enfin finir cette crise qui dure plus de 3 ans.
C'était Dao Fatoumata Guindo au micro VOA Afrique de Siaka Traoré.
Chelsea et Arsenal se neutralisent.
Chelsea et Arsenal se sont neutralisés lors de la demi-finale aller de la League Cup 0-0. Tout se jouera donc à l'Emirates Stadium le 24 janvier prochain.
Zidane prolonge son contrat avec le Real Madrid.
Et oui, l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, dont l'équipe semble traverser une mauvaise passe, a confirmé hier soir avoir signé sa prolongation de contrat jusqu'en 2020 avec le club merengue. Déclaration du technicien français en conférence de presse après un match nul contre Numancia, 2-2 en Coupe du Roi.
Et enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, le champion NBA en titre Golden State s'est nettement incliné à domicile, 106 à 125 face aux Clippers de Los Angeles. Et ce, malgré Kevin Durant qui a franchi le seuil symbolique des 20 000 points marqués en NBA. Miami s'est hissé à la 4e place de la conférence Est après sa victoire sur le parquet d'Indiana, 114 à 106.
Et ainsi s'achève notre page de sport. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République centrafricaine, afflux massif des déplacés vers Paoua. La population a triplé en raison des déplacements dus aux affrontements entre groupes armés aux alentours de la ville. Les ressortissants de la région à Bangui montent au créneau. Freeman Sipila.
La région de Paoua s'enlise dans le chaos. Plus de 80 000 déplacés internes, 100 villages incendiés, une centaine de morts et d'énormes dégâts matériels. Le bilan est lourd selon le collectif des députés de Luampendi. Timoléon Baïkoua, député de Paoua 2.
La population de Paoua et en particulier la population de Paoua 2 qui regroupe les quatre communes. Commune de Babessar, commune de Miapendé, commune de Bang et commune de Nanabaria. Cette population vit une tragédie depuis plus de 2-3 semaines. La population est en détresse total, parce que vous avez 60 000 populations qui se sont réfugiées à Paoua Centre. Vous avez déjà 10 000 qui ont traversé pour aller au Tchad et à peu près 25 à 30 000 dans la Brousse. Vous avez plus de centaines de villages brûlés. Vous avez les champs qui sont détruits, les bétails emportés. Vous avez des corps qui jalonnent même les routes sans que personne n'y prenne garde. C'est des situations, je dirais, c'est un désastre.
Les affrontements entre la Révolution Justice et les ex-Séléka du général Bahar, deux groupes rivaux, continuent d'affecter les différents villages. Anissé Georges Doulouguilé, chef de l'opposition, craint une catastrophe humanitaire.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des questions humanitaires graves et urgentes en ce moment. Déjà, quand ils ont coalisé, c'était contre les populations. Maintenant qu'ils se battent entre eux, c'est contre les populations. Mais bon sang, finalement, il faudrait qu'un jour, ces groupes nous disent pourquoi ils portent des armes. Parce que les populations ne les empêchent pas de vivre. Mais eux, ils empêchent les populations de vivre.
Dépassés par l'ampleur des violences, les femmes ressortissantes de la région de Paoua à Bangui appellent les autorités à une action d'urgence afin de sauver des vies. Célestine Dibert-Bekoy est la chargée de communication de leur collectif.
Place au gouvernement, nous demandons très humblement l'accroissement de ces actions du retour de la paix. Ces groupes armés cessent de traumatiser la population, de maltraiter la population parce que c'est vraiment la politique de la terre brûlée. On chasse tout le monde n'a plus le droit de citer. C'est indescriptible.
La semaine dernière, les ministres de la Défense et de la Sécurité publique se sont rendus à Paoua pour s'enquérir de la situation. Selon le général Henri Wazé Lingisara, ministre de la Sécurité publique, les dispositions sont en cours pour assister la population en détresse.
La mission gouvernementale qui s'est dirigée sur les lieux a pu rencontrer les représentants des groupes armés qui étaient présents. On a échangé avec eux, avec les autorités administratives. Les ONG sur place à Paoua nous ont confirmé qu'ils prenaient des dispositions pour l'assistance alimentaire de cette population. Le gouvernement est en train de prendre ses responsabilités par rapport à la population dans la ville de Paoua.
Les affrontements aux alentours de Paoua ont éclaté fin 2017 à la suite de l'assassinat de Raymond Belanga, leader d'une faction RJ, par les ex-Séléka. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Gabon, la nouvelle constitution adoptée hier par le Congrès introduit un scrutin présidentiel à deux tours, mais ne limite pas le nombre de mandats à la tête de l'État. Autre nouveauté, c'est désormais le président de la République qui détermine la politique de la nation, alors que dans l'actuelle constitution, il le fait en concertation avec le gouvernement. Donc est-ce un progrès ou un regret ? Yacouba Ouédraogo a joint le professeur Auguste Eyéné Sono, analyste politique.
La démocratie est en régression. Les acquis que nous tenons de la conférence nationale de 1991 sont en train d'être sabordés.
Il est prévu que désormais, c'est le président seul qui détermine la politique de la nation, alors qu'auparavant, il le faisait en concertation avec le gouvernement. Il y a une sorte de renforcement du pouvoir du président de la République, bien sûr.
À travers ce projet, il y a une sorte d'hyper-présidentialisation, n'est-ce pas, de la gestion du pouvoir. Comme vous pouvez l'observer, plus on présidentialise la gestion du pouvoir dans un pays, moins la démocratie existe, moins elle est une réalité.
La nouvelle constitution introduit un scrutin présidentiel à deux tours désormais. C'est un souhait de l'opposition.
Oui, je vais être honnête avec vous, c'est une bonne nouvelle. Une élection à deux tours est une élection démocratique. Lorsqu'une élection n'est qu'à un tour, cela porte en soi un déficit de démocratie. Mais je dois rappeler que la constitution de 1991 prévoyait déjà une élection à deux tours. Et permettez quand même que je nuance moi-même mon enthousiasme, parce que le problème de ce pays, ce n'est pas la constitution. Le problème dans notre pays, c'est l'éducation des élites politiques.
C'était le professeur Auguste Yéné, Sonojoint à Libreville. À ce sujet, Yacouba Ouédraogo a également recueilli la réaction du porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Billy Binzé.
Jusqu'à cette modification, les élections politiques étaient à un tour à la majorité simple. Là maintenant, on revient à deux tours de scrutin, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle ou des élections législatives. Donc c'est une avancée majeure. L'autre avancée, parce que la contestation a porté une amende sur la Cour constitutionnelle. La modification de la Constitution fixe maintenant le mandat des membres de la Cour à un mandat unique de 9 ans non renouvelable. Et de même que la composition de la Cour a été modifiée, désormais des personnalités issues du milieu du droit, qu'il s'agisse de professeurs de droit, d'avocats, de la société civile pourront être membres de la Cour constitutionnelle. Mais ce sont des avancées significatives.
Il n'y a toujours pas de limitation du mandat présidentiel et désormais il est dit que c'est le président seul qui détermine la politique de la nation. Auparavant, il le faisait en concertation avec le gouvernement. Il y a une sorte de renforcement du pouvoir du président de la République.
Un exécutif a un chef, c'est le chef de l'État. Un exécutif n'a pas deux chefs.
Alors, l'opposition, elle, considère plutôt que cette nouvelle constitution consacre une sorte de monarchisation du pouvoir. Que lui répondez-vous?
Au Gabon, pour être président, il faut être candidat à une élection présidentielle et chacun peut ouvrir la compétition. Je ne vois pas où est la monarchisation. Il n'y a pas du tout au Gabon de dévolution du pouvoir de manière familiale. Le pouvoir fait par l'élection devant le peuple, par le suffrage universel. Je ne vois pas où est la monarchisation.
C'était Alain-Claude Billy Binzé, porte-parole du gouvernement gabonais.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Alors, vous avez sûrement pris de nouvelles résolutions pour l'année 2018, mais la question c'est, comment les garder? Surtout quand elles concernent la santé. Gabi Dorsil relate les trouvailles de Face Lapidus dans ce reportage.
Il y a des gymnases partout dans le monde, tous offrant une gamme d'équipements d'exercice et des cours de fitness. Un programme de haute intensité à Karachi aide ses membres à chasser le stress de la vie urbaine. À Los Angeles, ceux qui recherchent quelque chose d'un peu plus exotique se tournent vers Bollywood. Shalini Vadera est une consultante pour la question de beauté.
Il y a une danse dans le nord de l'Inde appelée Bhangra, qui est très populaire. C'est peut-être la danse la plus amusante.
Moins de grâce, direz-vous, avec la boxe, mais elle vous fait quand même bouger, surtout sur fond musical. Il y a aussi le foot. Pas en regardant la télé, bien sûr, mais en pratiquant vous-même. Vous perdrez du poids à coup sûr. En 2016, des Londoniens se disaient qu'il n'y avait pas assez de programmes pour perdre du poids visant spécifiquement les hommes. Alors ils lancèrent le projet L'homme contre la graisse.
La plupart des gars perdent 5% de leur poids initial et bon nombre en perdent 10%. Et c'est surtout grâce au soutien qu'ils obtiennent des autres hommes ici et de leur entraîneur.
Autre option qui gagne en popularité, le yoga. Pratique vieille, mais parfois méconnue. Il faut dire aussi que cette pratique a évolué de façon surprenante. Il y a le yoga et le yoga qui fait rire.
Les endorphines dans le corps aident à combattre ce qui nous rend malade. Ça nous donne du bonheur. Chaque rire aux éclats vous fait perdre 3,5 calories. C'est comme le Botox pour les filles.
Et si aucune de ces options ne vous convient, vous pouvez toujours choisir une résolution différente pour l'année 2019.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205 2633. 001-202-205 2633. sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le monde aujourd'hui sur cette musique de Monique Seka. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Dorsil. À la console, Audrius Rigis. À la présentation, Raissa Girondin. On reste connecté sur Facebook et également sur notre site internet voaafrique.com. Excellente suite de programme. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le journalisme reste une profession dangereuse dans trop d'endroits à travers le monde. Le 16 octobre, Daphne Caruana Galizia, une journaliste examinant la corruption à Malte dans l'enquête sur les Panama Papers, a été tuée par l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture. En septembre, des assaillants ont mis le feu à la voiture de Yulia Latinina, chroniqueuse pour Novaya Gazeta et animatrice d'une émission de radio hebdomadaire en Russie. Protéger les journalistes et les professionnels des médias contre la violence de ceux qui voudraient les censurer est un principe fondamental de la liberté d'expression, a déclaré Shannon Maguire, conseillère média auprès du Bureau pour l'Europe et l'Eurasie de l'USAID. Depuis 1992, plus de 800 journalistes ont été assassinés dans le monde, selon le Comité pour la protection des journalistes, le CPJ. 86% ont été tués en toute impunité, ce qui signifie que personne n'a été tenu responsable. En Russie, pays figurant dans les top 10 de la liste du CPJ, l'attaque de Latinina n'est que la dernière d'une série d'agressions et des menaces contre les journalistes russes et les personnalités de l'opposition qui n'ont pas abouti à des mises en accusation formelles. En Ukraine, le meurtre du célèbre journaliste d'investigation, Pavel Jeremy, n'est toujours pas élucidé plus d'un an plus tard. L'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, a accordé la priorité aux médias indépendants en Europe et en Eurasie depuis ses débuts là-bas en 1992. Ces programmes portent à la fois sur l'offre et la demande des nouvelles et d'informations et préconisent une plus grande liberté des presses. L'un de ces programmes est le Regional Investigative Journalism Network, qui aide à protéger les journalistes contre les attaques en rendant plus difficile pour les criminels d'identifier ceux qui ont dénoncé leurs méfaits. En Ukraine, le projet YouMedia de l'USAID a collaboré avec plus de 500 médias indépendants pour s'assurer que les journalistes professionnels opèrent en toute sécurité et protègent leurs données dans les zones de conflit de l'Est de l'Ukraine et de la Crimée.
les bailleurs des fonds, les décideurs politiques, les organisations de défense des droits humains et les organisations de la société civile doivent continuer à exercer des pressions sur les personnes impliquées dans la censure pour garantir la poursuite d'un débat ouvert et public et la libre circulation de l'information. Les journalistes ne sont pas des soldats et leurs caméras et stylos ne sont pas des armes, a déclaré Mme Maguire. Ils ne devraient pas avoir à craindre l'expression. Ne tuez pas le messager.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.